Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. C'est la libre antenne. Comme tous les vendredis, vous commentez l'actualité de votre choix. Et je vous le disais à l'instant, vous êtes nombreux à souhaiter réagir à la réforme de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque c'est officiel. Depuis hier, la CAN se jouera désormais à 24 équipes et non plus 16. Et la compétition se tiendra en été, donc en juin et juillet, une fois les championnats européens terminés. On aura largement l'occasion la semaine prochaine, évidemment, de réagir, de commenter cette réforme. Mais on va vous donner la parole tout de même ce matin. Jean-Lucien, vous êtes à Yaoundé. Bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez. Je suis un ancien d'ici les Moulineaux qui vous salue dans vos nouveaux studios d'ici les Moulineaux.
Ah bah écoutez, merci. Vous étiez donc voisin de RFI. Vous habitiez en région parisienne, c'est formidable. Vous êtes donc au Cameroun et vous souhaitiez commenter cette réforme qui entrera en vigueur dès la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, dès 2019. D'abord, le fait de passer de 16 à 24 équipes, est-ce que c'est une bonne démarche, une bonne initiative selon vous?
Oui, Monsieur Gomez, moi je vous dis sans embâche que c'est une très bonne initiative. Parce que voyez-vous, l'Afrique est diverse et multiple. Je veux dire, l'Afrique c'est un grand continent, il y a plus de 53 pays. Et il aurait été bien parce que il y a une bonne partie des pays, dits petits entre guillemets, qui n'avaient pour Coupe d'Afrique que ce qu'elles voyaient à la télé. Or, du moment qu'un nombre élevé de pays seront appelés à participer, cela contribuerait à vulgariser et à populariser cette compétition. Et même aussi pour les finances de la CAF, ce serait une très bonne chose.
Ouais. Mais certains s'inquiètent du niveau de jeu, puisque 8 équipes supplémentaires, forcément, il n'y aura pas 8 très bonnes équipes. Forcément, cela risque peut-être de remettre en cause la qualité du jeu, en tout cas le niveau des joueurs.
Oui, mais M. Gomez, on ne peut pas appliquer l'argument que certains appliquent contre les Africains lorsque nous demandons plus de place dans la Coupe du Monde et que nous-mêmes nous appliquons cet argument-là pour d'autres pays africains. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui aspire à avoir plus d'équipes en Coupe du Monde.
Tout à fait.
Et c'est la même chose qu'il y a plus de pays africains qui aspirent à ce qu'il y ait plus de place pour la phase finale de la Coupe d'Afrique. Cela est une très bonne chose parce que moi, comme je vous dis, il y a des pays que l'Afrique est un très grand continent. Et les Africains voyagent très peu. Et donc, à travers la Coupe d'Afrique, ce serait un moyen de découvrir d'autres populations, d'autres Afriques, parce qu'il y a plusieurs Afriques. Et moi, je pense que ce serait une très bonne chose, parce que aujourd'hui, il y a des pays que nous ne connaissons que de nom.
Oui, bien sûr. Et le fait de permettre à ces équipes-là de participer à la phase finale de la CAN mettra en lumière ces pays. Mais qui dit plus d'équipes dit forcément plus de matchs, donc plus de stades. Puisque vous êtes au Cameroun, on s'inquiète déjà au Cameroun de cette décision, puisque déjà que le Cameroun a du mal à construire les 4 stades initialement nécessaires, aujourd'hui on va lui demander d'en construire 6.
Oui, mais là, ceux qui s'inquiètent, ce sont ceux qui ne sont pas concernés par l'organisation directement de la compétition. Mais je peux vous rassurer que le Cameroun a un potentiel pour pouvoir organiser la compétition avec 6 stades. Parce que là, actuellement, Douala et Yaoundé peuvent mettre à la disposition de la CAF pour l'organisation de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, 4 stades. Parce qu'à Douala, il y a 2 stades, à Yaoundé, Douala, il y aura 2 stades, et à Yaoundé, il y en aura 2. Et puis, il y a Bafoussam et à Lindé, on a 2 autres stades qui sont éligibles pour la compétition. Donc, à mon sens, ce n'est pas là le problème.
Oui. Il faudra plus de stades, plus d'hôtels, évidemment, pour accueillir les joueurs et les supporters, plus d'infrastructures pour permettre le transport de ces milliers de touristes et de supporters qui viendront assister à la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, vous êtes optimiste, ce qui n'était pas le cas. Vous l'avez certainement entendu il y a quelques jours sur notre antenne de Patrick Mboma, qui dit: quand je vois l'état d'avancement des travaux au Cameroun, je me dis que le travail est loin d'être achevé, pour reprendre ses propos. Restez en ligne, Jean-Lucien. Willy, vous êtes à Paris, bonjour.
Oui, bonjour Gomez, bonjour.
Et vous souhaitiez justement réagir à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui doit théoriquement se tenir au Cameroun, mais certains s'inquiètent que le Cameroun ne puisse pas être prêt, puisque même le président de la Fédération camerounaise de football disait encore ce matin sur notre antenne, nous sommes dans un monde de droit, nous n'allons pas changer les règles du jeu en cours. Le Cameroun a postulé pour la Coupe d'Afrique des Nations avec un cahier des charges bien précis pour 16 équipes. Maintenant, on lui demande d'organiser une CAN pour 24 équipes.
Bah écoutez, je pense que je peux pas mieux intervenir sur les propos de ce président, ce qui est que le Cameroun a absolument besoin de cette compétition-là, et je crois que le Cameroun a tout à fait l'attitude, la capacité d'étendre ses infrastructures actuelles à six poules. Pour ne prendre que l'exemple de la poule Bafoussam Limbé Boya, il y a suffisamment d'infrastructures là-bas, comme disait tout à l'heure Lucien, pour qu'on fasse de cette poule-là deux poules. Il resterait donc une seule poule à créer. Or, le Cameroun a absolument besoin de valoriser d'autres sites, d'autres zones. Il y a un stade à Saint-Mélima et qui a été construit il n'y a pas très longtemps. Il y a des hôtels de ce côté-là. Et il y a une ville qu'on appelle Kudi qui est en pleine explosion et qui vient d'accueillir et qui vient de construire un port en eau profonde qui est notre ville balnéaire au Cameroun. Je pense qu'on peut faire de cette ville-là.
Donc le Cameroun sera prêt à vous entendre. Et pourtant, excusez-moi, je reprends encore les propos de Patrick Mboma, qui est quand même une référence en matière de football. Lorsque je discute avec les gens du Cameroun au sujet de la construction du stade à Douala, de l'état des routes et du stade de Bafoussam, du grand stade Paul Biya, rien n'avance ou presque, pas suffisamment vite en tout cas. Fin de citation.
Je pense qu'il devrait faire un tour du côté du Cameroun. Et en plus, les techniciens de Pikini, l'entreprise qui a gagné donc la construction du stade Paul Biya à Yaoundé, ont affirmé, et c'est des techniciens, qu'ils peuvent livrer ce stade 4 mois avant le début de la compétition. Ça, c'est dingue. À Douala aussi, les travaux avancent. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on s'engage, où l'on voudrait réaliser, on va le faire. Je reviens sur la déclaration.
On va le faire. En tout cas, il y a plusieurs pays qui sont déjà sur les rangs. Le Maroc, l'Algérie, qui se disent prêtes à accueillir la CAN 2019 si le Cameroun ne sera pas suffisamment bien préparé. On aura l'occasion de parler la semaine prochaine justement des conséquences de cette nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des Nations pour les trois pays qui se sont déjà vus attribuer la compétition. Nous parlions du Cameroun en 2019, mais de la Côte d'Ivoire en 2021, mais aussi de la Guinée en 2023. Ces pays-là pourront-ils relever le défi? Ce sera un des sujets que nous débattrons la semaine prochaine. Merci à tous les deux, Willy et Jean-Lucien, de nous avoir appelés. On vous souhaite une bonne journée. Emmanuel est à Lagos. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Et avec vous, on va parler d'un tout autre sujet. Vous êtes au Nigeria et sur place, c'est l'état de santé du président Bouhari qui alimente les discussions, les débats radio-télévisés et surtout les rumeurs, puisque cela fait maintenant plus de 2 mois que le chef de l'État est à Londres pour des raisons personnelles sans que personne ne sache finalement de quoi il souffre, de quoi il est malade.
Oui, ça fait, je crois, 75 jours maintenant que M. Bouhari est hospitalisé à Londres. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas d'informations, alors il y a une forme de libre cours pour les rumeurs. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Le climat est vraiment crispé. Tout le monde essaie de s'informer comme il peut. Mais le gouvernement a été clair parce que c'est la deuxième fois que Bouhari va se soigner à l'étranger. La première fois, il y a eu trop de rumeurs. La seconde fois, ils ont dit, nous n'allons pas informer sur son état de santé. Donc, ils ont été très clairs là-dessus. Et donc, la population est restée à son frein.
Mais comment expliquez-vous, Emmanuel, ce silence? On peut comprendre, c'est un sujet sensible, tabou. On ne parle pas aussi facilement, évidemment, de la santé des présidents de la République, surtout lorsqu'ils sont malades. Et c'est le cas du président Bouhari, puisque personne ne nie, au sein de la présidence, qu'il est souffrant. Mais aucune vidéo, aucune photo, ça contribue justement à alimenter les rumeurs. Et ça donne finalement des arguments à l'opposition pour se positionner en vue des prochaines élections.
Oui, c'est un fait, parce que Lorsqu'il y a du vide, donc les rumeurs vont occuper le vide, et le fait est que le Nigeria est peut-être à la veille des élections présidentielles, ce sera en 2019, et donc cette administration qui est là depuis 2 ans ne fait pas grand-chose, et donc tout le monde pense que si Buhari ne peut pas le faire, quelqu'un d'autre doit le faire. Mais la réalité ici est que le président, il a trop de pouvoir, et même s'il a délégué ses pouvoirs à son vice-président, ce n'est pas exactement, ça tout dépend de la carrure et de qui est en charge. Donc tout le monde pense que Buhari, il n'est pas là, donc tout est au statu quo. Donc, il faudrait occuper la place.
Oui, et c'est ce que fait d'ailleurs le PDP, le principal parti de l'opposition, qui exige des explications, plus de transparence sur l'état de santé du président. Et certains en coulisses d'ailleurs commencent déjà à se préparer à une éventuelle succession, puisque, je vous dis, les rumeurs les plus folles circulent. Certains disent qu'il est atteint d'un cancer, et d'autres affirment même qu'il serait mort. Mais voilà, pour l'instant, aucune information ne filtre. Merci à vous, Emmanuel. Vous souhaitiez rajouter quelque chose avant de nous quitter?
Oui. Ah oui, la lettre que ils ont, selon les informations d'un quotidien en ligne, ils ont dit que peut-être la semaine prochaine va revenir, mais c'est encore des spéculations, mais personne ne sait vraiment ce qui va ici et
oui.
Ce qui ne va pas.
Ce n'est pas la première fois que le retour du président Buhari est annoncé. On suivra ça évidemment avec notre correspondant sur place. Merci à vous, Emmanuel. Bonne journée à Lagos, 10h51 à Paris. Vous nous appelez, vous commentez l'actualité de votre choix. 30 39 693 693 70. Ousmane Ba, bonjour.
Allô?
Allô, Ousmane Ba?
Oui, bonjour, Juan.
Bonjour. Vous souhaitez nous interpeller sur la Mauritanie, où samedi dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre le référendum constitutionnel du 5 août.
Oui. Au passage, je salue tous les auditeurs de RFI en Mauritanie. Le projet de révision constitutionnelle qui sera soumis au référendum par en place ne répond à aucun enjeu politique et n'est pas une priorité nationale et constitue un divertissement qui vise à détourner l'opinion aux vrais problèmes de la Mauritanie, tels que l'unité nationale, la grande pauvreté, la question de l'esclavage, la sécurité et les crimes économiques commis par le pouvoir.
Mais attendez, j'entends, vous dites que ce référendum n'est pas une priorité. Le président de la République lui-même a reconnu sur notre antenne, sur RFI, je crois que c'était au mois d'avril, qu'il y avait effectivement d'autres priorités dans le pays, mais que la révision de la Constitution était aussi une des priorités, car il fallait changer des institutions qui coûtaient très cher. Et le point fort de cette réforme, c'est justement de supprimer le Sénat, car il coûte trop cher, de supprimer la Haute Cour de justice, là aussi pour des raisons financières, et de supprimer le Haut Conseil islamique. Donc voilà, l'idée, selon le président de la République, c'est de faire des économies.
Et je ne vois pas quelle économie, du moment qu'il lapide des biens publics du pays à des projets non porteurs pour la Mauritanie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la grande majorité des Mauritaniens forment un large front uni pour le refus pour faire échouer ce référendum, tel que le FNDI et d'autres partis. Et d'ailleurs, ce qui ressort ces derniers jours dans les meetings organisés par le parti au pouvoir, ses ministres, les présidents du parti, que d'autres ambitions se cachent derrière ce référendum. Et pour briguer un troisième mandat.
Oui, mais enfin, alors là, excusez-moi Ousmane Ba, je n'ai pas lu toute la réforme constitutionnelle en entier, je suis honnête. Mais trouvez-moi la ligne où on peut à un moment donné se dire, ah, il y a peut-être anguille sous roche, effectivement, le président de la République veut revoir le nombre de mandats présidentiels, veut modifier la limitation du nombre de mandats présidentiels. Est-ce que vous l'avez lu, ce document ?
Oui, il n'y a pas...
Non, attendez, oui, oui, où ? Oui, où ? Parce que je serais ravi de le lire, ce document.
Écoutez-moi, s'il vous plaît, le président de la République, il avait dit dans un meeting à Nema qu'il avait violé la Constitution 2 fois, donc il peut le faire, et aussi c'est les ministres des hauts responsables du parti au pouvoir qui l'ont répété tout dernièrement dans des meetings à l'intérieur du pays.
Oui, mais que le peuple dans le texte qui sera soumis à référendum, Ousmane Ba, excusez-moi, dans ce texte-là, rien n'indique qu'il y a une volonté pour le président de la République de briguer un troisième mandat.
Oui, dans le texte, il n'y a rien qui le prouve, mais il a ses ambitions pour déverrouiller la Constitution après ce coup d'État constitutionnel.
Alors, c'est votre point de vue. Merci de l'avoir exprimé et de nous avoir appelé, Ousmane Ba de la région parisienne. 33 9 693 693 70. On va parler d'une autre réforme constitutionnelle qui fait polémique, celle voulue par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'avons-nous? Daouda, bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors, on en parlait à l'instant avec Ousmane Ba sur la Mauritanie, avec les manifestations contre le référendum constitutionnel. C'était le cas également samedi dernier à Bamako, où une partie de l'opposition et de la société civile a marché pour dire non à ce projet. Vous en pensez quoi, vous, alors?
Oui, bonjour à FIA, bonjour à tous les auditeurs de RFI. En fait, cette révision constitutionnelle n'a vraiment pas lieu d'être au Mali dans l'état actuel du pays. On nous présente la révision constitutionnelle comme étant un droit du président de la République et du peuple. Mais en même temps, le président de la République et le peuple se doit de respecter la constitution en vigueur. Et la constitution de 92 que nous avons en vigueur aujourd'hui n'autorise pas une révision constitutionnelle tant que l'intégrité territoriale du pays est menacée. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que l'État du Mali, la nation, le président de la République et le gouvernement contrôlent l'entière totalité des ces 8 régions administratives du Mali.
Oui, mais c'est pas vrai. Ce que dit l'opposition, effectivement, pour s'opposer à ce référendum constitutionnel, elle invoque l'article 118 qui dit que aucune procédure de révision constitutionnelle ne peut être engagée lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Et l'opposition dit qu'une partie de ce territoire malien est occupée par des forces étrangères. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour constitutionnelle n'a pas du tout la même analyse.
Oui, mais la Cour constitutionnelle est au sol du président de la République. Mais remarquez, vous êtes au courant, au nord du Mali, à partir de Mopti, un militaire ou en tout cas un cadre de l'administration malienne ne peut pas mettre le nez dehors. Vous avez plus de 500 écoles fermées avec des enseignants qui ont abandonné leur poste. Et la Cour constitutionnelle du Mali appelle ça l'insécurité résiduelle. Dizaines de sous-préfets fuyant leur poste, c'est de l'insécurité résiduelle ça?
Oui. Donc pour vous, l'État n'est pas présent sur une grande partie du territoire malien, donc il est hors de question d'organiser en ces conditions, dans ce contexte-là, un référendum constitutionnel, d'autant qu'une partie de la population, finalement, ne pourra pas voter, ne pourra pas participer à cette révision constitutionnelle.
On a vu les élections communales, elles ne se sont pas tenues, même les élections législatives. Aujourd'hui, le Mali est en train de perdre une grande partie de son territoire. Avant l'élection du président de la République, il le sait bien, il allait battre campagne à Kidal. Mais aujourd'hui, lui-même, il a dit qu'il n'ira jamais à Kidal, qu'aucune fanfaronnade ne le fera partir à Kidal. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de perdre. Le Mali ne contrôle un seul millimètre du territoire de
bien.
Kidal.
Ouais. Alors, bon, en tout cas, je sais bien que si je vous laisse la parole, vous la garderez encore 10 minutes et un quart d'heure. C'est un sujet qui passionne énormément les Maliens. Il n'y a qu'à voir la foule qu'il y avait samedi dernier à Bamako pour protester contre ce référendum constitutionnel. Qui avons-nous au standard? Albert, pour terminer. Alors, bonjour Albert.
Bonjour Juan.
Vous nous avez envoyé un long courriel, car vous êtes encore quelques-uns à nous envoyer des courriers électroniques et à ne pas passer par les réseaux sociaux. Vous souhaitiez commenter les récents propos d'Emmanuel Macron lors du sommet du G20 à Hambourg. Le président français était invité à s'exprimer sur le développement de l'Afrique et il l'a dit. Albert, je prends 15 secondes pour reprendre ses propos. Quand les pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Et vous souhaitiez réagir en disant « arrêtons de polémiquer, à aucun moment il faut voir dans les propos d'Emmanuel Macron une vision raciste ».
Oui, je pense que le problème est peut-être au niveau du choix du mot quand il a parlé de civilisation, mais derrière ce qu'il a dit, il y a quand même une vérité. La vérité, c'est que on ne peut pas développer un pays dans lequel la démocratie est galopante et non maîtrisée. Vous voyez, la Chine aujourd'hui, qui est deuxième puissance mondiale, à un moment donné de son histoire, a quand même opéré une réforme pour interdire aux couples d'avoir plus d'un enfant. Et aujourd'hui, je pense que la Chine en récolte les bénéfices sur le plan économique. Donc je pense que également que les sensibilisations qui étaient lancées entre-temps dans nos pays, dans les pays africains, pour limiter le nombre de naissances, pour faire en sorte que le nombre de naissances le nombre d'enfants par famille correspond au niveau de revenus, je pense que cette sensibilisation-là doit également être relancée à nouveau et redynamisée afin que vraiment que nous puissions avoir que les couples aient le nombre d'enfants qui correspond réellement à leur niveau de revenu.
Ouais, donc vous partagez l'analyse du président de la République. En tout cas, ses propos ont suscité énormément de réactions, évidemment, sur les réseaux sociaux, des politologues, des historiens. Par exemple, Françoise Vergès, elle a une analyse